Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là.
Si la contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
Libre Radio, www.libreradio.org, la web radio du peuple.
Nous sommes dans les conditions du direct, mais pas en direct ce soir, au Muséum d'Histoire Naturelle à Genève, le 25 août, c'est donc un vendredi, et nous sommes là à l'occasion de la Nuit des Chauves-Souris, qui vient à peine d'ouvrir. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'ouverture? Eh bien, des foules d'enfants, accompagnés de leurs parents, se précipitent à l'intérieur du musée. Alors, nous avons, sur notre chemin, rencontré une personne qui est avec un de ces chariots. Ce sont des ateliers sciences, en fait, si j'ai bien compris.
Exactement.
Voilà. Alors, justement, on ne sait pas encore qui vous êtes. Est-ce que vous aimeriez vous présenter?
Alors, je suis Eric Ashka. Je préside la Société Astronomique de Genève. Mm-hmm. Et je suis venu pour présenter la partie astronomique, puisque la nuit, il y a les chauves-souris, mais il y a aussi les étoiles. Et en fait, je donne avec Pascal depuis un certain nombre d'années des conférences sur la pollution lumineuse. Et on aborde les deux. L'impact de la lumière nocturne sur les chauves-souris et sur les étoiles.
Eh oui. Alors justement, lequel est-il cet impact? Parce qu'on sait qu'il est par ailleurs assez nocif. Les chauves-souris peuvent être également éblouies la nuit, c'est ça, hein?
Alors, je suis plutôt partie astronomique.
D'accord.
Mais pour avoir côtoyé Pascal, en fait, la lumière fragmente les paysages. L'éclairage public, placé dans différents points dans la ville, vont en fait empêcher, vont créer une barrière artificielle et empêcheront les chauves-souris de passer d'un côté à l'autre. Donc ça complexifie l'évolution du vivant. Mais là, je vous demanderai plutôt de voir
mais
Pascal,
oui,
parce que c'est le grand spécialiste.
On a rendez-vous avec lui juste tout à l'heure. Voilà. Alors vous, vous avez cette petite étagère à roulettes. Qu'est-ce que vous allez présenter et à qui allez-vous le faire?
Alors, sur le chariot, il y a une carte du ciel, une carte du ciel mobile en format papier, qui permet en fait de montrer le ciel nocturne en fonction de la date et de l'heure. Donc, de pouvoir montrer les constellations qu'on peut voir ce soir, telles qu'on pourra voir la Grande Ourse, Cassiopée, le Cygne, le Bouvier, un ensemble de constellations qu'on peut voir, et également un ordinateur avec un logiciel qui permet de simuler le ciel et trouver des dates auxquelles on voudrait voir l'état du ciel.
D'accord, c'est-à-dire que dans le passé, enfin, l'ordinateur permet justement de se projeter dans le passé ou dans le futur?
Et dans le présent.
Et dans le présent.
Les trois états.
D'accord. Quels sont les outils qu'il faut, assez simples, pour pouvoir justement observer le ciel?
Les yeux.
Les yeux, ça suffit?
Pour commencer.
Ouais. Déjà avec ça, on a suffisamment de quoi faire.
Oui, parce qu'on peut regarder la Lune tous les jours et on peut voir son déplacement dans le ciel et comprendre, relier finalement l'orbite de la Lune qui tourne autour de la Terre, simplement en observant chaque jour la Lune et on voit vraiment qu'elle se déplace parmi les étoiles. Et donc, on peut se rendre compte, en observant à l'œil nu, le mouvement de la Lune parmi les étoiles, ce qui, en fait, est une réalisation du mouvement de la Lune autour de la Terre.
Absolument. Y a-t-il des moyens mémotechniques pour savoir si on est sur une Lune ascendante, descendante, à quel moment on est du calendrier lunaire, disons?
Ascendante ou croissante et décroissante?
Ah, alors, précisez-vous-même, parce que moi, je ne pourrais pas vous en dire plus.
Parce que
quelle est la différence entre ascendante et croissante et descendante et décroissante?
Alors, croissante, c'est la phase. C'est l'éclairage. Ascendante et descendante, c'est la position dans le ciel, la hauteur dans le ciel.
Ok.
C'est deux choses différentes.
J'ai compris.
Donc, si vous voulez voir en fait la Lune, si vous la suivez au jour le jour, elle va commencer par être en nouvelle Lune, donc un disque noir. Vous ne la voyez pas. Quelques jours plus tard, vous allez avoir un croissant, puis un premier quartier, puis ensuite une Lune gibbeuse qui se trouve entre le quartier et la pleine Lune. Donc, c'est une Lune un peu plus que la moitié, mais pas la pleine Lune. Après, vous arrivez à la pleine Lune 14 jours plus tard. Et ensuite, vous avez de nouveau une gibbeuse décroissante. Donc, une Lune entre la pleine Lune et le dernier quartier. Puis, un dernier quartier et un dernier croissant avant de revenir 28 jours, 29 jours plus tard à la nouvelle Lune.
D'accord. Est-ce que, selon vous, c'est un astre, enfin, qui, comment dire, qui éveille la curiosité encore, la Lune? Ou est-ce que, vous savez, avec Google Lune, toutes ces choses-là, est-ce que, finalement, la féerie que constitue la Lune a un petit peu, selon vous, c'est un petit peu amoindri?
Tout dépend des individus, tout dépend des cultures, tout dépend des parcours de chacun. Ce que j'observe à titre personnel, quand je regarde autour de moi, il y a toujours ce regard un petit peu, surtout les nuits d'été, quand il y a la pleine lune, vous êtes à la campagne, il y a le silence, vous avez le paysage qui est complètement éclairé, Et il y a une forme de, je dirais, de poésie, une forme de, d'éclairage nocturne qui sort de l'ordinaire. C'est la lumière dans la nuit. Cet astre a bercé la vie depuis qu'elle existe sur Terre, puisqu'elle engendre les marées.
Tout à fait.
Elle a aussi, dans les tout débuts, permis l'établissement d'un calendrier, puisque les mois, c'était les durées des lunaisons. Donc, quelque part, la Lune, quand on rentre du travail, même si on est citadin, c'est un astre remarquable que l'on voit facilement même dans les grandes métropoles, ce qui n'est pas le cas d'une galaxie.
Effectivement.
Donc la Lune est un objet extrêmement visible et qui change rapidement. Donc à l'œil nu, c'est un bel objet. Puis après, si on veut aller plus loin avec une paire de jumelles ou un tout petit instrument, on peut se faire très plaisir. C'est un objet qui est magique.
Qu'est-ce que ça... Quel est le phénomène qui fait que des fois on observe une lune rougeoyante presque? Il y a des moments, il me semble m'être souvenu de voir une lune vraiment presque rosée. Est-ce que ça c'est une phase spéciale de la lune ou c'est mon regard en fait, qui, c'est mon ressenti?
La lune parfois a une couleur plus foncée, c'est exact, plus rouge, plus marron. Peut-être pas marron mais rougeoyante. Quand le soleil se couche, quelle couleur a-t-il?
Effectivement, il est rosé, enfin, il va dans les orangés, je dirais même.
Et quand il est en haut, il est beaucoup plus lumineux.
Tout à fait.
Ah, c'est... Et en fait, si vous imaginez la Terre comme étant une orange, la peau blanche de l'orange, qui est l'atmosphère de la Terre, si vous prenez une aiguille que vous la piquez perpendiculairement à l'orange, la peau que vous allez traverser est très fine. Donc la quantité d'air traversé est très faible. Donc la lumière va être très intense. Par contre, quand le soleil va se coucher, vous allez prendre l'aiguille et vous allez piquer tangentiellement à l'endroit où vous êtes. Mais par contre, l'épaisseur de peau que vous allez traverser dans l'orange est beaucoup plus épaisse. Donc en traversant plus d'air, la lumière se disperse, les bleus s'atténuent et il reste le rouge. Et donc le soleil au ras de l'horizon ainsi que la lune deviennent rouges.
J'ai compris. D'accord. La lumière... Encore deux, trois petites questions, puis je vous laisse aller.
Oui,
on
ne
va pas vous embêter trop longtemps. Mais justement, là, tout à l'heure, on parlait de pollution lumineuse, d'interaction lumineuse. Est-ce qu'effectivement, les lumières de la ville sont problématiques pour quelqu'un qui va avoir opérer une observation fine de la Lune? Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux aller, pourquoi pas, même dans un observatoire qui est distancié de la ville et de ses éclats?
Alors, la Lune est un objet très lumineux. En conséquence, que l'on soit en ville ou à la campagne, ça n'a aucun impact. Donc on peut facilement observer d'une grande métropole, avec un instrument, facilement la Lune. Et je dirais même, à la limite, que quand elle est en pleine Lune, le ciel est tellement lumineux, tellement blanc, laiteux, qu'on voit très peu d'étoiles. Et l'autre phénomène, lorsque nous sommes à la pleine Lune, c'est que la lumière du soleil arrive perpendiculairement à la surface de la Lune, et donc il n'y a plus d'ombre portée, il n'y a plus de cratère visible puisque la lumière arrive. C'est comme si vous éclairiez une ville d'en haut avec des rayons qui arrivent en bas, vous ne voyez plus les ombres des maisons. Donc pour un observateur qui se trouve en hauteur, il n'y a plus rien à voir, c'est homogène. Donc au moment de la pleine lune, les observatoires, en général les grands observatoires, sont fermés. Ensuite, par rapport à la pollution lumineuse, dans l'astronomie il y a deux types d'observations possibles. Il y a les objets proches, la Lune et les planètes qui sont visibles à l'œil nu, même dans les grandes villes. Et il y a l'astronomie dite lointaine qui est l'astronomie des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles qui sont très faiblement lumineux, qui nécessitent un télescope. Et là, oui, si vous êtes en ville, vous avez un voile opaque qui vous empêche de voir ce spectacle, qui vous empêche même avec un instrument de pouvoir discriminer, de voir la dispersion des étoiles. Et là, effectivement, vous avez un problème. Donc là, la pollution lumineuse est un problème. Et je dirais même qu'elle est un problème, pas uniquement avec un télescope, elle est aussi un problème, enfin, problème, peut-être pas problème, mais en fait, un changement d'état. Parce que lorsque l'on prend l'Égypte antique, il n'y avait pas d'éclairage public. Donc chaque nuit, ils avaient un spectacle au-dessus des yeux, ils avaient la Voie lactée. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion d'aller en haute montagne par une nuit de nouvelle lune.
C'est splendide.
Eh bien, les citadins que nous sommes devenus, non plus ce spectacle.
Oui.
Or, ce spectacle a bercé l'humanité pendant plusieurs millénaires. Et depuis la révolution industrielle et l'électrification des villes, en l'espace de 100-150 ans, on a perdu littéralement ce contact avec l'univers, parce que quelque part, ce qu'on voit au-dessus, c'est un ensemble d'étoiles, dont le Soleil, notre étoile, est une d'entre elles, et finalement, on a perdu la vision de notre propre habitat, qui est l'univers. Mmh. C'est comme si nous habitions dans une ville et nous avions mis tellement de lumière qu'on ne voit plus les maisons autour de chez nous et on ne voit plus que la nôtre. Oui. Et on ne voit plus où on habite.
D'une certaine manière, on est un petit peu orphelin de nos propres horizons.
Et nos origines.
Et nos origines, exactement. Alors, quelles sont les planètes que l'on peut encore apercevoir à l'œil nu et de quelle manière est-ce qu'on les distingue? Je pense à Vénus, Mercure, j'imagine. Mmh. Est-ce que assez facilement, on peut comprendre et les distinguer, les discriminer, justement, comme vous disiez, de d'autres éléments astraux?
Alors, les planètes visibles à l'œil nu... Non, les planètes, alors. Les planètes du système solaire, il y en a 8. Mercure, Vénus... Alors, je les donne par ordre de distance au Soleil. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Oui.
Sur ces planètes, bon, si on retire la Terre, il n'en reste plus que 7. Potentiellement visibles. Ensuite, les deux dernières, Uranus et Neptune, ne sont pas visibles à l'œil nu parce qu'elles sont très loin. Elles ont été découvertes par William Herschel et puis par Urbain Le Verrier, qui sont deux astronomes, qui les ont découvertes grâce à des instruments ou des calculs.
Ou des calculs. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait une projection théorique et on s'est dit, cette planète existe.
L'avant-dernière qui a été découverte, qui est Uranus, qui a été découverte par William Herschel avec un télescope, avait un mouvement orbital bizarroïde. Et donc, un mathématicien et astronome du nom de Urbain Le Verrier, qui est français, a fait les calculs, mais en parallèle, il y avait aussi un astronome anglais qui avait fait les mêmes calculs en même temps. Donc, en décomposant le mouvement de la planète, il a établi qu'il y a certainement quelque chose derrière qui perturbe son mouvement, donc une autre planète. Et il a établi, par les maths, la présence d'une autre planète. Et il en a même déterminé la position. L'anglais a demandé au directeur de l'observatoire qui est à côté de chez lui d'observer, mais comme ils ne s'entendaient pas très bien, ils n'ont pas regardé. Par contre, Urbain Le Verrier, lui, a demandé l'observation, et je crois que c'est l'observatoire de Berlin qui a fait l'observation. Donc, si l'anglais avait été écouté, il aurait été publié en premier, il était découvreur.
Ah oui, et là, ce n'est pas
le cas. Et c'est Le Verrier qui a officiellement sur le papier, qui a découvert la planète Neptune.
D'accord. Okay.
Donc, pour revenir aux planètes visibles à l'œil nu, vous avez donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mm-hmm. Ces planètes sont parfaitement visibles. Depuis l'Antiquité, elles étaient visibles des premières civilisations. Et en fait, elles se repèrent dans le ciel parce que, comme elles tournent autour du Soleil, elles sont mobiles. Alors que les étoiles, comme elles sont extrêmement lointaines, si vous regardez la Grande Ourse, quand vous êtes adolescent, adulte, personne âgée, tout au cours de votre propre vie, la forme des constellations ne changera pas. Parce que les étoiles sont très loin. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez un vélo se déplacer à 1 mètre de vous. Il vous donne l'impression d'aller très vite. Vous voyez un avion de ligne se déplacer à 10 km dans le ciel, vous avez l'impression qu'il fait du surplace. Par contre, leur vitesse respective n'est pas la même. Donc, une étoile qui est très 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 loin, à l'échelle d'une vie humaine, donnera l'impression de ne pas bouger. Alors qu'une planète, comme un vélo, est proche de nous et on la verra bouger. Donc, par rapport à un fond d'étoile qui, lui, est statique, vous aurez l'impression que les planètes sont des points lumineux qui se déplacent parmi les étoiles qui sont, elles, statiques. Donc, une étoile, une planète, est en fait apparaît comme une étoile pour un novice. On a l'impression que c'est une étoile, c'est un point lumineux qui brille comme une étoile. Mais en fait, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Et le mot planète vient de planeto, qui est du grec ou du latin, qui veut dire astre errant.
D'accord, donc c'est le mouvement qui nous permet de la distinguer.
C'est le mouvement qui nous permet de la distinguer. Et en plus, lorsque l'on connaît les constellations, les formes des constellations, et donc on connaît le ciel, si on a un point lumineux qui brille dans un endroit où finalement on s'attend à ne pas voir un point lumineux, par élimination, c'est une planète.
C'est pas mal astucieux quand même. Et alors, question ? Non.
Une blague pourrie, je voulais dire que ça pouvait aussi être un avion, mais voilà.
Ou un UFO, un OVNI. Alors, concernant les exoplanètes, comment, parce que ce sont deux Suisses qui ont, si j'ai bien compris, découvert la première, Queloz et, je ne me souviens plus du deuxième, Michel Mayor, merci. Qui sont de l'Observatoire de Genève. Comment ont-ils découvert cette première exoplanète?
Alors, en fait, c'est parti du fait que À l'origine, si on retourne dans l'histoire de l'astronomie, la Terre est au centre de l'univers. Et puis, les recherches, les découvertes successives, je pense à des gens comme Galilée, comme Copernic, qui ont un petit peu chamboulé l'ordre des choses. Avec quelques découvertes, on a découvert que la Terre était non plus au centre, et que c'était le Soleil qui était au centre. Et la Terre s'est reléguée au troisième rang, en termes de position autour du Soleil. Et puis, progressivement, en continuant, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que le Soleil n'était pas au centre, qu'il y avait une galaxie, que le Soleil n'était qu'en périphérie de notre propre galaxie. Et dans les années 1920, on pensait que la galaxie, la Voie lactée, n'était que l'univers. Et un astronome américain du nom d'Edwin Hubble fait une découverte qu'il y a d'autres galaxies. Et puis de proche en proche, les découvertes se poursuivent et on s'aperçoit qu'il y a peut-être 100 à 200 milliards de galaxies dans l'univers. Donc dans les années 1920, il y a moins d'un siècle, l'univers explose par ses dimensions en termes de perception. Et puis la Terre qui, à l'origine, si on reprend l'histoire tout au début, qui était au centre, bah, se trouve pas forcément au centre et perdue dans une multitude qu'on croyait finalement plus petite. Les exoplanètes. Bien entendu, avec cette évolution de découverte, on se dit, s'il y a des étoiles, nous on a une étoile, notre étoile le Soleil, qui a des planètes qui tournent autour. Donc on peut imaginer, s'il y a d'autres étoiles, qu'il peut y avoir aussi d'autres planètes. Alors, émettre l'hypothèse est une chose, mais la démontrer en est une autre. Parce qu'on peut dire, voilà, il y a plein d'étoiles dans le ciel, et parmi ces étoiles, je dis qu'il y a des planètes autour. Mais alors, la question qu'on va vous poser, donnez-moi-en la preuve. Si vous ne pouvez pas apporter la preuve, on reste dans le domaine de l'hypothèse. Donc, c'est un peu comme dans la science, où on avance par étapes, on valide quelque chose, et on gravit les marches d'escalier pour construire une vision, et on arrive à, plus qu'une vision, on arrive à un concept. Alors, qu'ont fait Michel Mayer et Didier Queloz ? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis de l'hypothèse que potentiellement, il pouvait y avoir des planètes autour d'autres étoiles. Et à partir de cette hypothèse, ils ont essayé de détecter la présence de planètes autour d'une autre étoile que le Soleil. Mais une autre étoile, c'est des années-lumière de distance, voire des dizaines, voire des centaines d'années-lumière de distance. Il faut savoir que notre Soleil se trouve à 8 minutes-lumière. La planète la plus lointaine, qui est Neptune, à peu près 4 heures-lumière. Donc vous voyez que quand on passe de 4 heures-lumière à plusieurs années, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années-lumière, c'est comme si vous aviez un bus à attendre 4 heures ou 10 ans. Si vous voyagez à une vitesse constante, vous vous rendez compte que l'échelle de distance n'est pas la même. Elle est très très loin. Donc le problème qu'on rencontre, c'est qu'une planète ne va pas émettre sa propre lumière, contrairement à une étoile. Donc pour la détecter, si elle est au voisinage d'une étoile, ça va être très dur.
Parce qu'elle sera, disons, éblouie.
Éblouie par la lumière. Voilà. Okay. Je vais vous donner une analogie simple. Nous sommes à Genève. Vous avez une lampe de stade à Zurich et vous avez une mouche qui tourne autour de la lampe à Zurich. Eh bien, votre mission, c'est de détecter la mouche qui n'émet pas sa propre lumière en étant à Genève, dans l'éblouissement de la lumière du stade de Zurich. C'est à peu près ça.
D'accord.
Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décomposé la lumière de cette étoile. Et quand on décompose la lumière d'une étoile, on a un spectre lumineux avec des raies de couleur. Et si autour de l'étoile, il y a une planète, le système va bouger autour du centre de gravité constitué de l'étoile et de la planète, et non pas autour de l'étoile. Ça veut donc dire que quand la planète elle tourne autour, le centre de gravité reste au milieu, mais comme le centre de gravité ne se trouve pas au centre de l'étoile, l'étoile va bouger très légèrement.
Et c'est ça qui fait que...
Donc en décomposant la lumière, on a les rayons lumineuses, mais il y a un phénomène qui est utilisé par la police pour prendre des photos pour les personnes qui font des excès de vitesse en voiture, qui s'appelle l'effet Doppler. On va envoyer une onde sur une voiture et l'onde qui va revenir à une fréquence différente. Et l'écart de fréquence va déterminer la vitesse de déplacement du véhicule. En appliquant ça sur la lumière, on arrive à en déterminer la vitesse de déplacement de l'étoile et on établit le fait que, puisque l'étoile se déplace, il y a quelque chose qui tourne autour, donc il y a une planète.
D'accord, donc ça c'est obligé. En fait, finalement, là aussi, c'est une forme de force de la gravité qui... Enfin, parce que donc, si j'ai bien compris, la planète d'une certaine manière, fait osciller un petit peu l'étoile. Et c'est ça qui révèle que la planète existe.
Ce que vous avez dit est juste. Pour le reformuler, la planète, en tournant autour, induit un léger déplacement de l'étoile.
J'ai compris.
Très léger.
Et c'est ça que l'on...
Et on mesure le déplacement de l'étoile.
Ok.
Et par le déplacement de l'étoile, on en déduit qu'il y a des planètes qui tournent autour.
Très bien. J'ai compris.
Et c'est donc de la mesure indirecte, parce qu'on n'a pas besoin de photographier la planète. C'est le déplacement de l'étoile qui donne la signature.
Pour en revenir à nos 8 planètes, que l'on connaît relativement bien quand même, on observe qu'elles sont quand même toutes regroupées sur un même plan quasiment. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y en a-t-il d'autres qui ne sont justement pas sur ce plan-là, qui couperaient différemment le plan de ces planètes-là?
Alors, lorsque le système solaire s'est formé, c'était un disque protoplanétaire, un disque de poussière, mais qui était relativement plat. Et dans ce disque de poussière, les poussières se sont agrégées progressivement, ont formé les planètes de façon locale. Donc c'est comme si vous aviez un grumeau qui se forme dans la farine, vous mettez une goutte d'eau, vous avez un grumeau qui se forme. Et puis plus gros, le grumeau va devenir gros, plus il va avoir tendance à attirer les grains de sable qui sont loin, parce qu'il est plus lourd. C'est le principe de la gravité. Donc il va vider l'espace autour. Et ce plan, en fait, ce plan de poussière, il tourne dans le même sens. Donc toutes les planètes, elles tournent dans le même sens autour du Soleil. Globalement, toutes les planètes, effectivement, tournent quasiment dans le même plan. Quasiment dans le même plan. Mais bien sûr, elles ne sont pas parfaitement... Si on prend une feuille de papier, si on dessine des ronds sur une feuille de papier et qu'on regarde la feuille de papier par la tranche, là, c'est le cas idéal, on aurait toutes les orbites confondues. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Il y a quelques petits degrés de différence. La planète la plus remarquable, qui aujourd'hui n'est plus une planète puisqu'elle a été déclassée par l'Union Astronomique Internationale, c'est Pluton.
Pluton.
La planète qui est la... Enfin, aujourd'hui, ce n'est plus une planète, mais l'astre qui tourne autour du Soleil et qui, en fait, est dans ce plan, a, elle, cette planète, a une inclinaison de 15 ou de 17 degrés, je ne sais plus de mémoire, par rapport au plan d'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc là, oui, effectivement, elle est très inclinée.
Mmh. D'accord. Pourquoi, justement, Pluton a-t-elle perdu ce statut de planète? C'est une question de taille, de masse, de...
C'est une question de taille, en fait, ce qu'a décrété, en fait, parce qu'au fur et à mesure qu'on a fait des découvertes dans le système solaire, on a découvert qu'il existait aussi plein de corps qui flottaient partout dans le système solaire, de taille relativement similaire à Pluton, et on s'est dit on va se retrouver avec 9, 10, 15, 20 planètes. Donc, ils ont requalifié la définition de planète. La planète est en fait un corps qui a une certaine taille, mais qui a une particularité en plus, celle d'avoir vidé son orbite. Je m'explique. Sur les orbites, il y a des cailloux qui flottent. Quand on vide l'orbite, ça veut dire que par sa gravité, on a aspiré tous les cailloux à proximité et donc on a nettoyé quelque part au voisinage ce qui pouvait traîner.
D'accord.
Et ça... donc le cas de Pluton, bah, au voisinage de Pluton, il y a aussi d'autres cailloux.
Ok. Peut-on dire que cette configuration-là est particulière à la Voie lactée, que c'est une singularité, que c'est vraiment notre galaxie qui est dans cette configuration-là, avec ses planètes relativement sur le même plan?
C'est pas la galaxie, c'est le système solaire.
Le système solaire, ouais. Est-ce que c'est une caractéristique du système solaire de la Voie lactée que d'avoir cette configuration-là?
Aujourd'hui, on a une bonne vision du système solaire, donc notre propre système. On explore les autres systèmes, les autres exoplanètes. Là, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas de données chiffrées pour vous répondre. Donc là, je pense qu'il faut que je consulte un peu la littérature. Donc plutôt que de vous dire une bêtise, je préfère m'abstenir.
Oui, absolument. Alors peut-on dire que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on est parti d'une centralité terrienne pour passer à une centralité solaire, Hélios, décentrée. Peut-on dire que le Soleil est le centre de la Voie lactée ou pas? Alors, ou à quel moment, à quelle périphérie se trouverait-il?
Le Soleil n'est pas au centre de la galaxie, il se trouve en fait en périphérie, je dirais à peu près entre la moitié et les deux tiers du diamètre de la galaxie. Donc on est vraiment, je dirais, ce qu'on appelle dans la banlieue de la galaxie. Donc on n'est pas du tout au centre. On est en périphérie et le Soleil tourne autour du centre de la galaxie en une durée de, je ne m'en souviens plus, je crois que c'est 200 millions d'années, mais à vérifier.
C'est quoi le centre? Il y a quoi au centre de la galaxie? Il y a un autre espèce de soleil qui fait tourner tout autour de lui?
Alors, au centre de la galaxie, les mesures, enfin, ce qu'on établit, on pense qu'il y a des gros trous noirs.
D'accord. Peut-on dire du soleil qu'il est une grande, moyenne, petite étoile? Parce que c'est vrai que pour nous, c'est notre étoile référente.
Alors, pour nous, c'est une étoile
gigantesque. Mais par rapport à dans les horizons infinis, est-ce là une grande, une petite ou une moyenne étoile?
Ce n'est pas une petite étoile, minuscule tout au moins, mais ce n'est pas du tout une grande étoile non plus.
D'accord.
C'est une étoile relativement banale.
Ok.
Qui finalement n'est ni très grosse, parce qu'il y a des étoiles beaucoup plus grosses, mais il y a aussi des étoiles beaucoup plus petites. Donc sur l'échelle, on ne peut pas dire qu'elle soit ni très grande ni très petite.
Et sa longévité? J'ai entendu dire qu'il nous restait 5 milliards d'années. Est-ce un chiffre raisonnable?
La durée de vie totale du Soleil par rapport à sa masse, sa composition chimique, est estimée à 10 milliards d'années, sachant qu'on a déjà, depuis sa création, estimé à 5 milliards d'années. Effectivement, il nous reste 5 milliards d'années.
Ok. Et de quelle manière est-ce qu'on observe le Soleil également? Parce qu'avec cette luminosité, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut y déceler des choses?
Enfin, alors, le Soleil, là nous sommes aujourd'hui le 25 août, il y a 4 jours en arrière, le 21 août, les États-Unis ont connu un phénomène qui se produit rarement à la surface de la Terre, qui s'appelle une éclipse totale de Soleil. Lorsque ce phénomène arrive, j'ai déjà eu la chance d'en voir une. En fait, la surface du Soleil, qui est extrêmement brillante, qui est très éblouissante, lorsque la Lune vient passer devant, vous ne voyez, en fait, le Soleil, ce disque brillant est occulté, il est éclipsé. Par contre, tout autour du Soleil, vous avez des flammes, vous avez un vent solaire qui apparaît. Donc, le Soleil, je donne un exemple simple, à l'œil nu, lors d'une éclipse totale, vous allez voir des phénomènes que vous ne pouvez pas voir quand il n'y a pas d'éclipse. Ensuite, si vous n'avez pas d'éclipse, qui est un phénomène relativement rare, lorsque vous n'avez pas d'éclipse, il suffit de prendre un instrument tout simple qui s'appelle une paire de jumelles, de la poser sur un pied, ne surtout pas regarder au travers, mais de projeter l'image du soleil sur un écran. Et là, vous allez voir les taches solaires sur une feuille de papier blanche. Donc, équipement minimaliste, mes premières observations totalement possibles. Après, si vous voulez aller plus loin, prenez un instrument plus gros, et bien entendu, le diamètre du disque commence à augmenter sur votre feuille. Là, danger, plus l'instrument est gros, plus vous concentrez de lumière, plus la puissance lumineuse qui sort est grande, et plus le danger pour un œil inexpérimenté ou un enfant augmente. Donc, en conséquence, si on fait ce genre d'expérimentation, ne jamais mettre les yeux derrière, parce que c'est un aller simple, on devient aveugle, on perd l'œil. Si on projette, on a plus de détails. Et puis après, si on veut aller plus loin encore, on peut mettre ce qu'on appelle un filtre H-alpha, donc qui filtre le rayonnement alpha de l'atome d'hydrogène, qui est une des transitions atomiques que le Soleil opère lors de son mécanisme de brillance. Et là, avec un filtre H-alpha et un filtre pleine ouverture à l'entrée de l'instrument, on peut voir les flammes, les protubérances solaires en périphérie du disque. Donc on voit le rond et on voit les flammes.
C'est ce qu'on appelle également les éruptions solaires.
C'est les éruptions solaires.
D'accord.
Et ce qu'on peut aussi voir, si on a un filtre à l'arrière dont on peut changer la couleur dans le H-alpha, mais légèrement changer la fréquence, on peut voir sur la surface du disque des facules, donc une espèce de granulosité sur le disque solaire, et les petites taches sont largement plus grandes qu'un pays européen en superficie.
D'accord.
Les petites taches. Le Soleil fait 109 fois le diamètre de la Terre.
109 fois.
Donc si vous prenez un corps humain en gros de 1,70 m de hauteur, la pupille de l'œil, c'est la taille de la Terre.
Ah, c'est joli ça comme analogie. Ouais, enfin, je veux dire comme
ou
proportion.
Alors, ou alors, une orange, c'est le Soleil, et un grain de sable, c'est la Terre.
Ouais. Quelle est la température à la surface du Soleil?
6000 degrés.
Ça, c'est à la surface.
À la surface.
Et puis, plus on s'enfonce, évidemment,
c'est chaud.
Plus c'est chaud. Et la température maximum que l'on sait détecter du Soleil, à combien est-elle?
Au cœur, c'est plusieurs millions de degrés. Le chiffre exact, je ne sais pas si c'est 10 millions, 100 millions, j'en sais rien, mais c'est très élevé.
D'accord. Camille?
Comment est-ce qu'on fait pour mesurer ce genre de choses?
En décomposant la lumière, le spectre donne la signature.
Évidemment.
Et ouais. C'est beaucoup la lumière qui fait, bah comme vous avez dit tout à l'heure pour l'effet Doppler,
la lumière,
le bleu, le rouge.
La lumière est en fait porteuse d'informations. C'est la façon dont on lit l'information qui est portée par la lumière qui nous donne la signature.
Finalement, le Soleil est composé de quoi? 2-3 gaz. il est pas si complexe que ça.
Alors le soleil.
Je me trompe complètement.
Alors non, ne vous trompez pas sur le soleil est composé en grande partie d'hydrogène. C'est, je dirais, 60, 80 ou 90%. Je connais plus le chiffre exact, je l'ai plus en tête. Donc l'hydrogène est l'élément le plus présent. Le deuxième élément le plus présent, c'est l'hélium. C'est quelques pourcents. Et puis après, vous avez d'autres éléments plus lourds. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil, en fait, est une énorme centrale nucléaire. Qu'est-ce que fait le Soleil ? C'est une boule de gaz, donc un nuage de gaz, mais qui s'est concentré sur lui-même et par l'effet de la gravité en son cœur, a tellement de gravité. Parce que quand vous êtes sur Terre, la Terre vous attire sur le sol. Mais il faut imaginer que l'attraction sur le Soleil, si vous étiez sur le Soleil, même dans le cœur du Soleil, la gravité est tellement forte qu'elle a assez d'énergie pour prendre deux atomes et les écraser les uns sur les autres, ce qui n'est pas le cas sur Terre. Et en écrasant les atomes, vous allez transformer deux atomes d'hydrogène en un atome plus lourd qui est un atome d'hélium, mais l'atome d'hélium sera plus léger que les deux atomes d'hydrogène. Et la différence de masse sera convertie en énergie par la formule E égale mc2, parce que la masse fois la vitesse de lumière au carré donne l'énergie qui est libérée. Donc c'est par ce principe de fusion nucléaire que le Soleil libère son énergie.
Très bien. C'est bon à savoir. Y a-t-il une raison qui fait que les premières planètes qui succèdent au Soleil sont des planètes telluriques et que ça n'est qu'après que les planètes gazeuses apparaissent ?
Alors, l'ordre d'apparition des planètes, un certain temps que je n'ai pas lu mes livres de référence, de mémoire, mais à vérifier, il me semble que les planètes sont apparues quasiment en même temps. Les telluriques, encore une fois de mémoire, sont proches du Soleil puisque la gravité est plus forte. Donc, d'accord, a tendance à attirer les éléments plus lourds au voisinage du Soleil.
Ouais. Et ça, on peut calculer le. Si on faisait une sorte de calcul pour savoir la part de. La proportion du solide dans chacune de ces planètes-là, est-ce que ça, on peut le faire ? Par exemple, admettons qu'on trouve une planète avec un cœur. Massif, solide, est-ce qu'on peut en savoir les dimensions et les masses justement selon sa position par rapport au Soleil,
ouais, c'est-à-dire
est-ce qu'on peut calculer cette masse et est-ce qu'on peut la... Ce que je veux dire par là, c'est que une planète comme Jupiter par exemple, n'est-elle faite que de gaz ou y a-t-il également une partie tout de même solide à l'intérieur ?
Alors, plus on va être proche du centre, plus les atomes vont être concentrés les uns sur les autres par la gravité.
Ouais.
Et au cœur, les atomes sont compactés les uns sur les autres. Donc, quand les atomes sont collés les uns sur les autres, on a un solide, on n'a plus du gaz.
Ça
devient quelque chose de solide. Alors que la périphérie de Jupiter, donc si vous êtes à la surface, c'est du gaz. Donc, c'est comme un nuage sur la Terre. Mais plus vous allez vous approcher du centre, plus la gravité va compacter les atomes les uns sur les autres et plus la densité de gaz va augmenter à mesure où on va passer une marche d'escalier où finalement de gaz ça devient quelque chose de solide.
J'ai compris. Quel est le rêve dans l'astronomie ? S'il y en a un, ce serait...
Il y en a plein. Le rêve, c'est... Je pense que toute personne qui s'intéresse à l'astronomie ou qui travaille dans l'astronomie a le souhait peut-être de faire une découverte, mais je dirais que celle qui aujourd'hui, pour avoir discuté avec plusieurs personnes qui travaillent dans l'astronomie, je crois qu'aujourd'hui le plus grand rêve qu'on pourrait avoir, ça serait d'avoir la preuve irréfutable que la vie existe ailleurs dans l'univers.
Ah d'accord, donc ça c'est une des aspirations vraiment.
Oui, parce qu'en fait, au début, il y avait des planètes. On avait que la Terre, on pensait qu'il y avait que la Terre dans l'univers. Après, on a découvert d'autres planètes. Après, on a découvert qu'il y avait d'autres étoiles. On a découvert ensuite qu'il y avait d'autres planètes autour des étoiles. Donc, de proche en proche, on se dit, s'il y a d'autres planètes, est-ce que la vie est un phénomène qui est apparu ici, sur Terre uniquement ? Ou est-ce que c'est pas un processus qui finalement est apparu ailleurs dans l'univers ? Parce que dans l'univers, on a les mêmes substances. On a le carbone, on a l'hydrogène, on a l'oxygène, on a l'azote. On le retrouve partout dans l'univers. Ces éléments, on les retrouve partout. Et ces éléments, le carbone, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène, sont les constituants, les briques de base de la vie.
Mais alors, qu'est-ce qui manque pour qu'elle apparaisse une bonne fois pour toutes, cette vie ? Peut-être qu'il manque...
Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas la réponse.
Mais peut-être que c'est une question de regard qui font défaut encore. Peut-être que sont nos regards qui sont pas suffisamment avertis, encore suffisamment alertes. Y a-t-il quelque chose qui fait peur aux astronomes ? Oui, pardon. Voilà, y a-t-il quelque chose qui vous permet... Je pense à... Récemment, j'ai lu quelque chose concernant les géocroiseurs. J'ai également lu quelque chose sur les déchets, finalement, qui entourent la Terre et qui, pour certains, eh bien, pénétreront les couches atmosphériques et seront ou pas désintégrées. Alors voilà, quelles sont les peurs qui devraient nous alerter ? Nous, en tant qu'humains terriens.
Alors, le géocroiseur, oui, ça peut être une possibilité parce que un astéroïde de grande taille qui tombe sur la Terre peut être un cataclysme de grande ampleur et faire disparaître la vie sur Terre. Ça, c'est effectivement une des choses. Peut-être qu'une autre peur, c'est de se rendre compte qu'on est peut-être la seule humanité dans l'univers. Mais ça, c'est une peur plus philosophique.
Alors justement, là on voit qu'il y a des liens évidents entre la philosophie et l'astronomie. Y a-t-il comme ça quelque chose qui habite l'astronome à chaque fois qu'on fait une observation qui soit de l'ordre de la philosophie ? Est-ce qu'on repense justement à Galiléo Galilei, à ses premières observations, à ces horizons que l'on a perdus avec la fameuse pollution lumineuse dont on parlait ? Qu'est-ce qui habite un astronome philosophe ?
Je dirais qu'à un certain niveau, l'astronomie et la philosophie sont intimement liées. Puisque quand vous faites une découverte qui chamboule les croyances, c'est quelque part de la philosophie. Mmh. Quand Galilée met l'œil à sa lunette et puis dit « Vous m'avez toujours dit que la Terre était au centre et moi, avec ma lunette, je vois Jupiter et des lunes qui tournent autour. » Donc ça veut dire qu'il y a un autre corps, une autre planète qui existe, qui est le centre d'un système. Donc s'il y a une autre planète qui a un centre de système, la Terre n'est pas forcément le centre. Il y a d'autres centres. Donc il remet en question quelque part quelque chose qui était établi.
Absolument, c'est clair.
Donc, et de découvrir il y a 20 ans, 21 ans, qu'il y a des exoplanètes, alors qu'on pensait que les planètes gazeuses devaient orbiter relativement loin de leur étoile et celles qu'on a découvertes étaient très proches, ça a chamboulé aussi des croyances par rapport au domaine de savoir. Donc astronomie, découverte et philosophie, pour moi c'est lié. Parce que dès qu'on découvre, et souvent les découvertes que l'on fait, remettre en question les croyances que nous avions avant.
Avec tous les dangers que ça convoque, bien entendu. Sarah, je te donne tout de suite la parole. Si on prend au travers de l'histoire, les découvreuses et découvreurs qui ont été, bien entendu, maltraités. Je pensais justement, je regardais pour être sûr de son nom, Hypatie d'Alexandrie, qui est parmi les premières à avoir justement évoqué cette histoire d'héliocentrisme et qui, pour ce fait, en plus d'être une femme, eh bien, voilà, était roué de coups, etc. Une question, Igor.
Oui, moi, je voulais juste revenir sur la vie à l'extérieur de la Terre. Effectivement, bon, je suis passionné par ce genre de truc, mais c'est vrai que moi, personnellement, à part la littérature de romans de science-fiction, je suis jamais allé voir des revues qui sérieuses sur le sujet. Est-ce que, personnellement, et même à titre purement scientifique, il est probable, même plus que probable, voire même très improbable, qu'il n'existe pas une autre forme de vie. C'est-à-dire que, au niveau des probabilités, c'est quasiment obligatoire qu'à travers l'immensité de l'univers, il existe au moins une forme de vie. Je ne parle pas de petits bonshommes verts avec des antennes, mais au moins un truc de vivant.
Un truc de vivant très simple, ça peut être des cellules, ça peut être un arbre.
Par exemple.
Ça, vous pouvez avoir une planète couverte d'arbres.
C'est ça. Mais selon
et
vous,
là, vous avez la vie.
Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est de l'ordre du probable, du possible ? Parce que moi, ça me semblerait quand même très fort que ça n'existe pas dans l'immensité de tout ce qui nous entoure. Ce serait quand même une heureuse circonstance qu'on soit les seuls, quoi.
Je vous répondrai avec à la fois des éléments scientifiques, mais je conclurai avec ma conviction personnelle qui n'est pas une démonstration ni une preuve. Les éléments scientifiques sont les suivants. Pour faire la vie, il faut du carbone, il faut de l'azote, il faut de l'hydrogène, et puis du soufre, etc. Une étoile, c'est quoi ? C'est une grosse centrale nucléaire qui va transformer de l'hydrogène et qui va créer du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, du soufre, etc. Lorsque l'étoile va mourir, elle va exploser, elle va disséminer dans l'univers ces éléments. Les morceaux qui vont se disséminer vont se réagréger, vont former des planètes et des étoiles. Donc on a des briques de la vie. Ensuite, en 2004, les Américains ont envoyé une sonde qui s'appelle la sonde Stardust dans le système solaire. Et ils ont récupéré dans le sillage d'une comète des particules, la poussière interstellaire liée à la comète qui ne venait pas de Terre. Et ils ont ramené ces substances sur Terre, ces cailloux, cette poussière, et les ont analysés pour voir s'ils y trouvaient soit de la vie ou des choses qui peuvent s'apparenter à la vie. Et là, ils sont tombés à la renverse parce qu'ils ont trouvé des briques, des protéines constituantes de la vie, en dehors de la Terre. C'était en fait un acide aminé. L'acide aminé, en fait, c'est la brique fondamentale qui constitue la protéine, et la protéine constitue la brique de la vie, la membrane de la cellule, tout ce qui constitue le vivant. La protéine, vous l'avez dans les feuilles d'arbres, vous l'avez dans l'humain, vous l'avez dans le gazon, vous l'avez dans les mammifères, vous l'avez partout. Donc, à partir du moment que l'on trouve des briques constitutives de la vie en dehors de la Terre, on peut se poser deux questions. Soit la vie a émergé sur Terre, ou soit les briques constitutives de la vie ont été amenées de l'extérieur et disséminées sur la Terre. Si c'est tombé sur la Terre, ça peut être tombé ailleurs. Comme dans la galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles, et dans l'univers, on estime à 100 à 200 milliards de galaxies. Allez, soyons fous. 100 milliards, ça fait 1 avec 11 zéros derrière. Fois 100 milliards, ça fait 1 avec 22 zéros derrière. D'étoiles potentielles. Si on dit qu'une planète sur 100 a une planète, une étoile sur 100 a une planète, ça fait un 1 avec 20 zéros derrière de planètes possibles. Et puis si parmi ces planètes, on en a une sur 1000 qui ressemble à la Terre, ça fait un 1. Là, j'avais dit 1 avec 22 zéros, donc 1 avec 20 zéros, 1 avec 16 zéros de planètes possibles qui pourraient ressembler à la Terre. Après, il faudrait que la planète soit pas trop proche, parce que si elle est trop proche, il n'y a pas d'eau. Ça rentre en ébullition, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas d'eau. Si elle est trop loin, c'est glacé.
Ça, c'est la zone habitable.
C'est la zone habitable. D'accord. Etc, etc. Alors, vous avez les briques de la vie, vous avez les protéines, vous avez une multitude de planètes. Et là, j'arrête la science, je passe à ma conviction personnelle, où je dis, quand on gagne au loto, il y a toujours un gagnant. Et à chaque tirage, il y a encore des gagnants. Donc, là, c'est une conviction, mais ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une parole, je dirais, que j'avance comme ça. Bien entendu, elle peut être sujette à critique, mais quelque part, je suis enclin à penser que la vie n'est pas apparue uniquement que sur Terre, mais peut avoir apparu ailleurs. Parce que la Terre, quand la vie est apparue sur Terre, elle était d'ordre cellulaire. Elle est restée très longtemps cellulaire et unicellulaire avant d'être un ensemble de cellules qui se sont agrégées pour former des êtres multicellulaires, puis ensuite des plantes, puis ensuite, etc., en arrivant jusqu'aux mammifères et ensuite à l'humain. Parce que l'humain, lui, son apparition sur Terre n'a que quelques millions d'années, alors que la Terre a 5 milliards d'années. Donc l'apparition de l'humain, c'est les quelques dernières secondes, quelque part, sur l'échelle d'une année, si on ramène la durée d'un an depuis l'origine, c'est très court. Donc c'est tout à fait possible, et il faut quelque part rêver pour enclencher la recherche, pour aller chercher la preuve, parce que si on rêve pas, on va pas chercher la preuve.
Et oui, il faut émettre des hypothèses. Mais est-ce qu'on a pu du coup aussi rater la vie? Parce que si on prend par exemple une étoile qui est extrêmement éloignée, sa lumière qui nous parvient, on le sait, c'est une lumière qui peut dater de milliers d'années, mm-hmm. au bout du compte. Mm-hmm. Ça veut dire que peut-être, potentiellement, des civilisations entières auraient pu naître, vivre et mourir, et que finalement, on n'en trouvera plus la trace, parce que le simple fait d'être éloigné d'eux, les résidus qui surviennent, ont ce temps de durée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi imaginer.
Tout à fait. Moi, je vais vous répondre tout simplement. Imaginez la galaxie d'Andromède, qui est notre voisine. Elle est à 2 millions d'années-lumière. Donc, quand eux voient la Terre, s'ils peuvent la voir, ils la voient telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. L'humain, il n'avait pas la radio, il n'avait pas les fusées, il n'avait pas la voiture, il était dans les cavernes en train de chasser. Ah, donc, ils voient ça et ils se disent, oh, ben là-bas, c'est des primates.
Ça veut dire qu'on a pu gratter. Pourquoi pas?
Donc, inversement.
Eh oui.
Alors, je vais vous donner un exemple simple. Dans les années 80, quand il y a eu la guerre froide, le monde a failli disparaître. Enfin, l'humanité a failli disparaître. Parce qu'en fait, du côté soviétique, dans une base militaire soviétique, des traces de missiles américains étaient apparues sur les écrans. Et donc, la personne qui était en charge de la base s'était dit, je vais appuyer sur le bouton pour envoyer la riposte. Et il a eu la pression de toute sa base. Et c'était le chef temporaire pour une nuit, parce que celui qui devait gérer la base était malade, donc il a pris la place. Et toute la hiérarchie qui était en dessous de lui lui mettait la pression en disant, il faut envoyer la bombe, il faut tirer. Et lui, il dit non, je veux des preuves visuelles. Donc, attendre que les fusées hostiles arrivent jusqu'aux côtes et qu'on les voit visuellement pour établir justement qu'il y a quelque chose. Bien entendu, les personnes lui disaient, mais si on voit ça, c'est trop tard pour nous pour envoyer la riposte. Et lui, il a préféré attendre jusqu'au dernier moment. Il y a peu de contact visuel. Il n'a pas tiré et il a sauvé l'humanité. Donc, imaginons un cas où il y a 2 millions d'années-lumière, nos voisins nous verraient tels qu'aujourd'hui. On se met dans 2 millions d'années dans le futur. Dans les années 80, l'humanité sur Terre disparaît. Dans 2 millions d'années, la galaxie Andromède nous voit telle qu'on nous voit aujourd'hui. Et du jour au lendemain, plus l'humanité.
Et oui.
Donc, ils verraient en fait la vie. Mais s'ils pouvaient voyager instantanément et venir, il n'y aurait plus rien.
Il n'y aurait plus rien, exactement. Ça, c'est dur quand même. Hein. Ça fait quand même un peu de la peine. Y a-t-il des signes? Après, j'arrête. On va vous laisser. Ouais, je suis désolé. Mais c'est tellement intéressant. On ferait la nuit et des nuits. Une dernière. Y a-t-il des signes comme ça qui vraiment encouragent à l'optimisme? Je pense au waouh. Vous savez, ce signe sonore qui aurait été capté dans les années 70, où on l'appelle waouh parce que la personne qui était à l'écoute de ces paraboles a vu une onde arriver et puis l'a écrit à côté avec son stylo waouh. Voilà, est-ce qu'il y a des signes de cet ordre-là qui vraiment nous mettent le pied à l'étrier et qui nous disent voilà, on va continuer de chercher, même si c'est un peu une aiguille dans une botte de foin, et en plus, il y a cette notion de temps qui passe.
Alors, il y a la notion de temps, mais il y a aussi une autre notion. Avant qu'on découvre les infrarouges, les ultraviolets, on voyait que dans le visible. Donc, tout ce qui était visible avec nos yeux était source d'information. Avec la science, on a découvert qu'on pouvait observer le soleil dans l'infrarouge et même faire des photos infrarouges. Donc, faire une photo dans le noir dans une maison et puis voir les personnes avec la photo infrarouge parce que les personnes diffusent de la chaleur. Donc, on voit les silhouettes en couleur qui tranchent avec les meubles qui sont froids. Donc, une pièce noire peut être en fait extrêmement habitée si on la regarde en infrarouge. Donc à partir du moment où on va commencer à regarder dans d'autres domaines, on va avoir d'autres informations. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit lumière égale information. Donc comment on regarde? On regarde sur le socle de nos découvertes, les découvertes de l'humanité. On a découvert les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, etc. Mais qui nous dit qu'une autre civilisation n'aurait pas fait d'autres découvertes et trouvé d'autres phénomènes pour envoyer de l'information que nous ne connaissons pas? Et donc, c'est comme si une personne de langue anglaise parlait avec une personne de langue allemande, elle ne pourrait pas se comprendre. Et donc, il n'y aurait pas d'échange d'informations.
Alors, on va conclure sur cette forme d'espoir-là en disant qu'effectivement, ce qu'il nous manque, c'est les bons yeux pour bien voir ou les bonnes oreilles pour bien écouter. Qu'est-ce qu'on peut encore dire concernant les personnes qui ont envie de se jeter à corps perdu dans l'astronomie? Que devraient-elles faire? Est-ce que voilà, il y a un observatoire à Genève? Vous-même travaillez à l'observatoire ou y a-t-il comme ça des petits projets d'initiation où les personnes pourraient un site internet ou des choses comme ça que les personnes pourraient consulter?
Alors pour s'intéresser à l'astronomie, on peut soit en faire un métier ou soit s'intéresser de façon, comment dire, amateur et avoir un métier en parallèle. Donc tout est possible. Tout est une question de vocation, tout est une question de goût, tout est aussi une question de rencontre, parce que les rencontres sur son parcours de vie peuvent déterminer un choix de vie. Après, c'est un chemin individuel. Tout le monde est, je dirais, à sa liberté, son choix, son libre arbitre d'aller. Mais l'astronomie est une science qui est une science d'humilité. Parce que plus on apprend, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Et plus on s'aperçoit qu'on est petit, et plus on prend conscience qu'on est petit, plus on devient humble, et plus on se dit on n'est pas grand-chose. Mais cette humilité est aussi un grand levier, parce que quand on est humble, et quand on se dit qu'on ne sait pas, on va aller chercher l'information, et on va construire son savoir.
D'accord. Et puis comme j'imagine que c'est un savoir qui est collectif, puisqu'effectivement les découvertes, elles sont déjà elles se nourrissent du fait d'être communiquées, puis d'être travaillées par d'autres personnes, pourrait-on quand même évoquer quelques figures tutélaires qui sont celles d'un astronome passionné? Y a-t-il des personnages vraiment qui ont éclairé vraiment? On a cité tout à l'heure Copernic, Galilée. Voilà, y a-t-il quelques personnages comme ça qui vous viennent à l'esprit tout de suite, vers lesquels on pourrait se tourner pour par curiosité?
Personne vivante?
Vivante ou décédée?
Bah, dans les biographies, celles qui sont intéressantes, il y a Copernic, il y a Galilée. Il y a Herschel, William Herschel, Urbain Le Verrier, Edwin Hubble, Albert Einstein, Stephen Hawking. sont des personnages extrêmement intéressants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser aux biographies des découvreurs. Parce que dans leur parcours de vie, il y a des rencontres. Et c'est les rencontres qui les amènent à faire un métier et qui les amènent à faire des découvertes. Il y a un exemple très simple qui m'a beaucoup frappé, le découvreur de l'ADN. Mmh. Les deux découvreurs de l'ADN. Qui sont, c'est un Américain, un Anglais, c'est Watson et Crick. Je crois que Watson, c'est l'Américain et Crick, c'est l'Anglais. 1953, Grande-Bretagne. Je crois que c'est Watson, quand il était jeune étudiant, il tombe sur un livre d'un physicien quantique qui s'appelait Erwin Schrödinger. Physicien quantique qui s'intéressait à la vie et qui a écrit un livre qui s'appelle « C'est la vie », où il tente, avec son bagage de physicien, de rentrer dans la biologie. C'est un tout petit livre. Et en fait, Watson, quand il fait ses études supérieures, il tombe sur ce livre et ça l'amène à aller vers l'étude de la vie. Ça lui a donné sa vocation. Et dans sa vocation, il est donc devenu un biologiste ou un biochimiste, je ne sais pas exactement, mais il est parti dans cette branche. Il a fait des recherches et il a découvert en 1953 la structure de l'ADN. Donc sans ce petit livre, la vocation n'aurait pas été déclenchée et il n'aurait pas fait cette découverte et il n'aurait pas eu le prix Nobel pour cette découverte.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On peut citer Fleming aussi. Pour,
Fleming.
Là aussi qui est une découverte finalement hasardeuse. Mmh. Et Dieu sait si elle a sauvé des vies. T'as une petite question. Parce qu'on vient de parler justement de Schrödinger. On connaît en tout cas l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Est-ce que le monde quantique est pertinent quand on est un astronome et qu'on s'intéresse à l'infiniment grand? Est-ce que le quantique, l'infiniment petit, est une source d'intérêt également?
La réponse, elle est en fait dans le modèle des poupées russes.
précisez, cher.
Alors, poupées russes, vous avez la toute petite, mm-hmm. Puis vous avez une plus grande, puis une plus grande et une très grande. La très grande, c'est l'univers, et la toute petite au cœur, c'est la physique quantique au cœur des étoiles.
Donc intimement lié, quoi qu'il en soit.
Tout est lié.
Plus que lié, imbriqué même, on peut
imbriqué.
Dire.
Ouais. Tout est lié, toutes les échelles sont liées. Mais ce qui... est perturbant, c'est que les phénomènes qui se passent au niveau de l'atome n'ont rien à voir par rapport à ceux qui se passent ne serait-ce qu'à notre échelle humaine, qui n'est pas une grande échelle à l'échelle de l'univers, mais les lois physiques que nous connaissons au quotidien ne sont pas discrètes, elles sont continues. Un exemple simple, quand vous tournez un variateur de lumière, vous voyez la lumière progressivement changer d'intensité. Mmh. Or, au niveau de l'atome, la lumière, elle est soit noire, soit allumée, mais elle n'est pas entre les deux. Voilà les lois de la physique, pour résumer, pour synthétiser, pour donner une métaphore. Mmh. La physique quantique fonctionne comme ça. Or, la physique quantique, le monde qui est du monde l'infiniment petit, se comporte par état, non éteint, allumé. Or, l'univers macroscopique, qui s'appuie sur l'univers microscopique, et lui présente des gradients. Donc, ce qui, quelque part, interpelle.
Absolument. Question autour de nous ou on s'arrête là? On sait jamais. Hein. Je vous remercie beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Où est-ce que peut-on vous retrouver? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes donc ici, vous êtes donc à la Nuit des Chauves-Souris en train de raconter l'astronomie. Mais par ailleurs, y a-t-il d'autres lieux et d'autres instants où vous faites de même ou vous faites différemment?
Alors, la Société astronomique de Genève est établie à Genève. Nous avons des activités assez régulières, dont une tous les trimestres avec le Musée d'Histoire des Sciences. Donc, on a des soirées conjointes où il y a conférences et observations. Et la société, en fait, a pour but de diffuser le savoir astronomique dans la limite de ses ressources. C'est une société d'amateurs et qui regroupe toute catégorie de personnes, quel que soit l'âge, quels que soient les horizons, mais qui ont toutes en commun l'intérêt pour l'astronomie et qui veulent le partager entre eux.
Très bien. Et on peut dire qu'à Genève, c'est un des lieux où les gens, en termes d'astronomie, sont... il y a une acuité, il y a une volonté, il y a un mouvement, il y a une effervescence.
C'est un lieu de regroupement de personnes qui souhaitent apprendre, qui souhaitent partager. On fait venir des conférenciers, donc c'est ouvert au grand public. On fait des observations pour le public au signal Le Bernay de temps en temps. Donc il faut aller sur le site de la Société astronomique de Genève. Et il y a le programme dessus, donc les soirées publiques sont indiquées. Et puis il y a aussi le programme pour les membres. Après, libre à chacun si l'envie est là d'aller plus loin, de devenir membre et puis de participer à l'ensemble des activités.
Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est effectivement ouvert à tout le monde.
Oui.
Y a-t-il des prérequis quand même nécessaires ou pas?
La passion. Un certain nombre de personnes sont venues s'inscrire parce qu'elles voulaient s'émerveiller, elles voulaient apprendre au contact d'autres personnes, voulaient observer, profiter des instruments des membres. Donc non, il n'y a pas de prérequis. Après, c'est une question de goût.
De goût. L'âge? là non plus.
Je reprendrai une chanson célèbre de 7 à 70 ans. De 7 à 7 ans.
Très bien. Je vous remercie beaucoup. Parce que concernant juste le site internet, peut-être qu'on termine là-dessus. Vous connaissez l'adresse du site internet de la société d'astronomie ?
Oui, c'est www.astro, en 5 lettres, -le-ge.net.
Très bien. Merci beaucoup et puis bonne continuation à cette soirée des chauves-souris et cette soirée également d'astronomie.
Je vous remercie beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir. Voilà, nous on fait une petite pause musicale et puis on revient juste après pour la suite des opérations. Nous sommes de toute façon jusqu'à la fin de cette soirée chauves-souris, de cette nuit des chauves-souris, ici au Muséum d'Histoire Naturelle à Malagnou à Genève. C'est parti.